En compagnie de Myriam Segal. Bon matin.
Allô.
Tu veux revenir sur ce qu'on a jasé à compter de 8 heures au FM 93 en primeur. Je t'invite à tourner, à t'allonger le cou un peu.
Ouais.
L'église Saint-Sacrement magnifique qu'on a devant nous ici, qui marque un peu le paysage de la Haute-Ville à Québec, pourrait disparaître, être démolie à court terme.
Et mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Nous, c'est notre faute. C'est entièrement notre faute. Au cours des dernières années, je dirais des 40 dernières années, le Québec n'a jamais eu le courage de dire au diocèse, attends un peu. L'argent que t'as ramassé pour bâtir des églises, ça venait de paroissiens parce que l'église était en osmose totale avec la société à l'époque. Ces églises-là ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent au public. Si elles appartiennent au public, il faut avoir le courage, quand on est au gouvernement, de dire, OK, cette église-là, celle-là, 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 celle-là font partie du patrimoine collectif. Nous devons les préserver à tout prix.
Ouais.
On les nationalise, on rend l'église locataire et on arrête de se fier sur des petits curés vieillissants pour juger si la structure d'une église toffe ou toffe pas. On arrête de se fier sur un diocèse dont l'objectif est de faire de la pastorale et non pas de la préservation patrimoniale pour préserver du patrimoine.
C'est vrai.
On est d'une lâcheté innommable vis-à-vis de notre patrimoine.
J'adore ça comme point de vue. Toi, tu penses qu'on devrait enlever à l'église la responsabilité. Le rôle de l'église, c'est de faire des messes. Anyway, des messes, ils peuvent en faire partout.
De la pastorale.
C'est de la pastorale. Or, toi, tu dis, le gouvernement devrait défendre ce qui appartient un peu au public, parce que c'est par la quête et les dîmes qu'ils ont financé ça.
Exact.
C'est carrément ça.
Qui est un impôt quasi plus obligatoire que les taxes à l'époque.
Et il fallait donner à la dîme, oui. Alors, les gens ont payé pour ça. L'État devrait s'en mêler et choisir qu'est-ce qu'on conserve au nom de critères non pas religieux, mais patrimoniaux.
Alors, par exemple, l'église Saint-Sacrement, on juge qu'elle n'est pas assez ancienne pour être préservée, qu'elle n'est pas assez originale, mettons.
Si c'est ça, moi je pense
bon. On la documente, on la photographie, on la filme sous toutes ses coutures, on ramasse tout le patrimoine qu'on peut, on met ça dans un musée pour être sûr que la mémoire va rester.
Ouais.
Et on accepte que ce soit un deuxième Gibraltar qui se construise.
Là. Ou encore, on dit, c'est une des plus belles églises à Québec. Admettons, là. Okay?
Ça peut être l'inverse.
Gabin, c'est l'équivalent de l'église Saint-Roch, peut-être pas la basilique, mais comme Saint-Roch, on n'accepterait pas que ça soit démoli. Ça fait partie du paysage urbain. Il n'y a pas juste... Il y a la mémoire. Il y a aussi, tu sais, à Montréal, je l'ai dit plus tôt, là, on a conservé une enseigne de Farine Five Rose. Là.
Oui, bon, absolument.
Mais c'est correct. C'est une enseigne commerciale, mais ça fait partie du paysage urbain, de la mémoire, puis on gardait ça à Montréal.
Est-ce que ça fait partie du patrimoine collectif essentiel?
C'est
ça
n'a
rien
question.
À voir avec la religion.
Non, je suis d'accord,
avec
toi.
Dans les années, je pense que c'est 1910, les historiens me corrigeront, là, ils ont nationalisé toutes les églises romanes, gothiques, imaginables. OK? Puis il y en a, là.
Ah, ils ont nationalisé là-bas.
Les églises n'appartiennent plus aux communautés religieuses. Elles sont prêtées aux communautés religieuses.
Okay.
Et c'est l'État qui entretient le patrimoine.
Oh, ben ça, c'est un bon débat, ça. Parce que, tu sais, l'Église, ils vont penser à quoi? On les a entendus un peu, Mgr Pelchat, qui a été interrogé par notre collègue Jonathan Bernard. Lui, il dit, moi, côté paroissial, je peux fusionner des paroisses. Ça a l'air qu'il y a une chapelle au Gibraltar. Ça a l'air qu'il y a... Tu sais, ils sont capables, là.
On laisse des vieux curés puis des vieux marguillés décider du sort du patrimoine au Québec.
Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens, puis pas parce qu'ils sont de mauvaise foi.
Non.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens
de
juger si un patrimoine est en train de se défaire ou pas de se défaire.
Ouais. Et puis eux autres, ils vont voir que le terrain vaut 5 millions, Myriam. Fait que, pour l'Église, eux autres, s'ils sont capables d'embaucher des curés ou de maintenir d'autres paroisses avec le 5 millions-là, ils vont le faire.
Je vais te raconter ce qui s'est passé à Jonquière.
Go. Okay?
Il y avait trois églises. Saint-Laurent, qui datait du début du 20e siècle, qui était une église assez traditionnelle, un peu comme ça, mais dans laquelle il y avait un superbe orgue Casavant.
Oui, comme on a ici.
Il y avait Fatima, qui était une église typique des années 60, où on a fait de l'architecture capotée dans les églises. On en a une en forme de tente, elle était en forme de cornet de crème glacée à l'envers.
C'était comme un tipi, un peu, aussi.
Oui,
là, c'était
ça.
Blanc, c'était spécial. Ça.
C'était spécial.
Ouais.
Et il y avait un entrepôt à patates, moi je l'appelais de même, non? une boîte carrée, rectangulaire, sur le bord du boulevard Harvey, qui valait une petite fortune.
À côté du McDo, là.
Mais qui était d'une laideur sans nom.
Ouais, oui.
Le diocèse a dit, l'entrepôt à patates, il nous coûte pas cher à chauffer. Les plafonds sont pas trop hauts. Tout le monde est capable d'entretenir un bâtiment carré, rectangulaire. Les deux autres, c'est compliqué. Ils ont désacralisé les deux autres. Ils les ont mis en vente. Ils n'ont pas réussi à les vendre. Ils les ont vendus à des feuseux qui ont jamais pris possession. Ils les ont laissés se dégrader complètement. Le député du coin, Sylvain Gaudreau, s'est réveillé en disant « Sauvons Fatima, sauvons Fatima ». Il a niaisé pendant 2 ans. Il n'a jamais été capable de rien faire parce que c'était trop dégradé. Puis l'entrepôt à patates, lui, ben il est resté. Puis c'est resté le lieu de culte. Donc, on a perdu 2 églises qui avaient un sens patrimonial. Il fallait choisir laquelle on allait sauver. Parce que c'est des marguilliers puis des vieux curés qui ont décidé. Puis ils ont décidé. Puis leur décision était bonne. Parce que pour ce qui est de la pastorale et de la santé financière de leur diocèse, c'était la meilleure décision.
Ouais.
Sur le plan du patrimoine, c'est une catastrophe.
Le but de l'Église, c'est propager la foi, puis faire des messes, puis tout ça, puis s'adresser aux croyants. Ils n'ont pas besoin de patrimoine, d'histoire, etc. Effectivement.
Non.
Donc, ce que tu proposes, c'est que le gouvernement, soit la ville s'en mêle, ou le gouvernement décide de prendre ça en charge.
La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré nous prend au bout du nez aussi comme un problème.
Tu penses qu'un jour...
Est-ce qu'ils sont capables de les entretenir?
Ben, j'ai pas entendu parler, mais ça doit coûter une
fortune.
Regarde,
le cyclorama, ils ont dû faire une quoiture.
Oui.
Bon. T'as la basilique au centre-ville. Bon, c'est ça, ça va être sauvé. Mais fais la liste. Là, ce que la ville est en train de faire, c'est de la haute hypocrisie. On dit, on veut préserver le patrimoine, mais on veut pas mettre une scène dedans.
Ouais.
Ça fait que là, on va attendre, puis là, on fera pas, le maire Labeaume me l'a dit, on fera pas les pompiers. Donc, Saint-Sacrement, 10 millions de dollars pour sauver ça, non, il n'y a pas question. Mais... emmerder un promoteur qui a acheté 5 heures de Marie jusqu'à ce qu'il renonce à tous ses projets, ça, par exemple, la ville est capable de le faire.
Ouais.
Mais elle sauve rien en faisant ça.
Non.
Elle ne sauvegarde rien. Elle fait semblant de sauver du patrimoine.
Puis là, ils ne s'entendent pas parce que dans le cas de Saint-Sacrement, la ville a déclaré l'édifice patrimonial. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais pas le gouvernement. Fait que là, les deux ne s'entendent même pas. Puis il faut le faire, le débat.
On est exactement là où notre lâcheté des 40 dernières années nous a menés à laisser entre des vieux marguilliers et des communautés religieuses vieillissantes le soin de jauger ce qu'on doit garder comme patrimoine, alors que ce n'est pas leur objectif.
Parle-moi d'Hockey Canada. Une grosse controverse, là, parce que des joueurs, c'est des joueurs anglophones, mais qui ont des noms à consonance francophone. Bref, l'annonceur maison en Corée du Sud s'est fait dire par les dirigeants d'Hockey Canada, René Bourque puis Derek Roy, tu vas prononcer ça en anglais parce que ce sont des joueurs anglophones.
C'est un scandale. C'est un scandale. Non. Ils ont prétendu, Hockey Canada a prétendu, que c'est comme ça que les joueurs prononcent leur nom. Or, dans la vidéo sur laquelle on se repose, c'est une vidéo tournée en anglais. Donc, ils s'adressent à des gens qui sont anglophones. Et ils prononcent leur nom, dans le cas de Maxime Lapierre. Ils prononcent son nom normalement.
Et Maxime Lapierre n'est pas touché par ça.
Oui. Ils ont demandé aussi que ce soit prononcé un peu plus à l'anglaise.
C'est plus Marc-André Gragnani.
Moi, j'en ai vu
Gragnani,
trois. Là.
Gragnani, quand il le prononce son nom, il le prononce à l'italienne. Mmh. Gragnani. Bon.
Mais René Bourque puis Derek Roy, c'est des Anglais.
Le père de Roy est un dénommé Robert, qui est un franco-ontarien. De toute façon, de quoi Hockey Canada se mêle?
Ouais, c'est pas,
bon,
il aurait pu...
Ferme ta gueule, laisse-nous prononcer les noms comme on veut. Fais ton métier qui est de former des joueurs et des équipes. Puis sacre-nous patience pour ce qui est des commentateurs et des noms.
Mais non, on parle pas des commentateurs, on parle d'annonceur maison. Un annonceur maison, il y a un rôle officiel.
Oui, mais le rôle officiel de l'annonceur maison, s'il a un nom francophone devant lui, il va le prononcer en français. D'ailleurs,
il va le prononcer comme le joueur le prononce chez eux dans la cuisine avec sa famille.
Non, parce que ça nous donne des noms qui sont complètement capotés. Tu disais Lindros ou Lindros?
Lindros.
OK, Lindros est à la grecque. Il n'est pas grec pantoute.
Ouais, mais si lui il aime qu'on l'appelle Eric Lindros, on peut-tu l'appeler Eric Lindros? Je sais pas, moi je trouve pas que... Mettons que Derek Roy, il s'est toujours fait appeler Derek Roy. Tout le temps, à l'école, ses amis, c'est Derek Roy. Puis ici, aux Jeux olympiques, il veut qu'on dise, quand on le présente sa glace, Derek Roy.
Qu'il fasse la demande, lui. Hockey Canada, qui se mêle de leurs affaires.
Ouais, mais là, est-ce que ça se peut que ce soit les joueurs qui aient demandé à Hockey
ça
Canada?
Ça a pas l'air de ça. Ça a vraiment pas l'air de ça, parce que ça a l'air d'être une intervention collective.
Ouais, parce que Maxime Lapierre, Kevin Poulin et Maxime Noreau, Hockey Canada, s'en est pas mêlé. Continue de dire, parce que ce sont des joueurs québécois francophones, Sébastien Goulet, l'annonceur maison, dit qu'il peut prononcer, c'est vraiment René Bourque et Derek Roy.
Et Gragnani?
Mais Gragnani, c'est une erreur. Ben, lui, je pense que c'est... Non, ben, c'est ce qu'ils ont dit, là.
Ben, parce que c'est une erreur, Si Hockey Canada a demandé à l'annonceur de prononcer le nom de Graniani à l'anglaise, comment l'erreur est arrivée?
Non, pas à l'anglais. Il faut pas que ce soit à l'anglaise.
Non, il faut pas que ce soit. Non, non, ça
c'est une erreur.
Marc-André, c'est une erreur, je te l'accorde. Mais les deux autres, là, ils parlent pas un mot de français.
On a un comportement un peu colonisé vis-à-vis des noms. C'est-à-dire qu'on se demande toujours comment on devrait prononcer le nom pour faire plaisir à l'autre. Ça fait partie de notre esprit de coloniser. Toujours faire plaisir à l'autre. Toujours faire plaisir.
Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de logique. Mais ça dépend un peu de la prononciation, Myriam, je pense.
Que font les Français? Ils prononcent à la française, oui ou non?
Tout.
Bon.
Les Américains aussi.
Ils prononcent, les Américains, ils
ça
prononcent...
Ça a été Mario Lemieux pendant des années.
Oui. Ils prononcent à leur manière les noms.
Oui.
Parce qu'ils respectent les gens qui écoutent. Et non pas essayer de se prosterner devant un organisme ou devant un caprice de joueur ou de...
Mais moi, je trouve que l'oreille... Mais je trouve que l'oreille, Myriam, est importante.
Moi, si je suis aux États-Unis et que je me présente à un comptoir, ça ne me dérangera pas qu'ils m'appellent Siegel.
Oui, je comprends.
Mais au Québec, appelle-moi Segal.
L'équipe qui joue dans la Ligue nationale...
Au comptoir, je suis correct, mais si t'étais dans une compétition sportive, l'annonceur maison t'appelle Myriam Siegel,
si je suis aux
États-Unis, j'irais le voir puis je dirais, excuse, c'est Myriam Segal.
Si je suis aux États-Unis, il peut le prononcer comme il veut pour s'adresser à son monde. Si je suis au Québec, je vais m'attendre à ce qu'il prononce à la française parce que on est dans une province ou un pays francophone.
Mais ce matin, on a débordé, on a parlé des joueurs un peu, mais on a débordé sur les équipes. L'équipe de Buffalo dans la Ligue nationale de hockey, tu les appelles comment? Les Sabres. Okay, c'est les Sabres.
Les Sabres.
Tu dis pas les Sabres.
Non.
Tu dis les Sabres. L'équipe de la Floride, tu les appelles comment?
Les Panthers.
Non, c'est tout le monde dit les Panthers. Je sais pas pourquoi. Les Calgary. Non, il y a aucun
mot qui dit les Panthers à part toi.
Non, c'est pas tout ça.
On a un comportement un peu colonisé.
Ben moi je pense que ça dépend peut-être de l'oreille, Myriam. Ouais, c'est parce que ça se dit Sabres là, on dit pas ça. Predators. Est-ce qu'on dit ça? On dit les Preds ou les Prédateurs. Tu vois, lui on le met en français. À Calgary, est-ce qu'on dit les Flammes? Non, on dit les Flames. À Washington, on dit pas les Capitals, on dit les Capitals.
Ouais, puis au baseball, on dit les Pirates de Pittsburgh, pas les Pirates.
On dit pas les Pirates, puis on dit pas les Coyotes de Phoenix, on dit les Coyotes. Ouais. Parce que ça se dit mieux. C'est une question d'oreille.
C'est
moi, je pense qu'on a
une question d'oreille de coloniser.
Non, je pense que c'est juste
parce qu'on a renoncé
Myriam,
à parler notre langue en priorité. On essaye de faire plaisir aux autres.
Mais on dit coyote. Alors pourquoi on dit coyote? Ok, c'est-à-dire qu'on n'est pas colonisé quand on parle des coyotes de Phoenix parce qu'on les dit
en
français.
On l'est pas totalement.
C'est juste parce que ça se dit pas pareil. Coyotes, ça se dit mal. Les Flammes de Calgary. Il y a personne qui dit ça, c'est niaiseux. On préfère dire les Flames. Au Détroit, on dit les Tigers. On dit pas les tigres. Parce que ça se dit bien, Tigers. Ça se dit même avec un accent français. Tu peux dire Tigers. Alors que Sabres puis Coyotes, c'est plus dur. Donc, on les a francisés.
Est-ce que tu admets que c'est pas logique?
Il y a zéro logique.
Il y a une logique orthophonique.
Non, il n'y a pas de logique orthophonique.
Quand ça se dit bien...
C'est pas logique. C'est renoncer à sa langue et c'est renoncer à parler à son monde.
Mais je pense qu'un nom, c'est un nom, par exemple. Je veux dire, si Derek Roy, son nom, c'est Derek Roy, puis c'est comme ça qu'il se fait appeler depuis qu'il est né, je vois pas pourquoi on le franciserait son nom.
Mais ça dépend.
Là,
le commentateur sur la passerelle de presse, lui, peut dire Derek Roy.
Mais
dans l'annonceur officiel s'il veut donner son nom en anglais, parce que
ça vient du
joueur.
De la part d'un organisme comme Hockey Canada, qui s'est montré généralement hostile aux francophones, qui a été obligé ce coup-là d'en prendre quelques-uns parce qu'il n'y avait pas de joueurs de la Ligue nationale, mais vous pouvez y aller. Venant d'un organisme comme Hockey Canada, disons qu'ils ont deux prises contre eux dans mon livre à moi. Fait que la troisième, elle ne m'étonne pas.
L'organisme comme tel a des antécédents, je te le concède. Merci Myriam, on t'écoute ce midi.